vendredi, ça lie l'intime à l'agréable. C'est le grand format dans la JT.
Et c'est sur l'autre radio.
Je ne sais pas quel genre de semaine a passé l'auditeur de l'autre radio, je ne sais donc pas s'il a hâte qu'elle se termine ou s'il ne l'a pas vue passer. Écoutez, je vous propose en tout cas de laisser le tumulte de la semaine derrière vous, juste un petit moment, celui que l'on passe ensemble. Considérons cette émission comme un moment volé à l'agitation, je vous invite à entrer dans un petit cocon, un espace où le temps se ralentit, où la parole se déploie et où la rencontre devient essentielle. Aujourd'hui, c'est une voix que nous accueillons, une voix singulière, délicate et forte à la fois, celle d'Adèle. Adèle, c'est une jeune femme qui aime les mots, ce qu'on écrit et ce qu'on partage, ceux qui disent la différence et ceux qui la célèbrent. Une jeune femme dont l'histoire, bien que marquée par les défis, déborde de lumière et d'authenticité. Je ne vous propose pas de rester avec nous pour une simple interview, non. Restez avec nous pour une rencontre, une vraie, de celle qui marque, qui interroge et qui réchauffe aussi. Parce que la radio, c'est aussi ça, j'en suis convaincue. Un lien invisible entre vous, moi et ceux qui osent se raconter. Alors s'il vous plaît, laissez les bruits de l'extérieur s'éteindre, fermez doucement la porte si vous le pouvez. On commence avec Adèle, un voyage intime et précieux avec son parcours qu'elle nous raconte et son regard sur le monde. C'est le grand format de la JT du local qui commence. On ferme la porte, mais on ouvre une fenêtre avec la voix et les mots d'Adèle. Est-ce que déjà tu peux me parler de toi, en tout cas te présenter à nous, avec tes mots à toi, comme tu as envie de te présenter à l'auditeur de l'autre radio ?
Alors j'aime bien dire que j'ai trois identités différentes, donc je suis une aspirante journaliste, c'est pour ça d'ailleurs que je suis à l'autre radio, je suis écrivaine et je suis atteinte d'un trouble du spectre autistique, voilà. Okay. Avant on appelait ça le syndrome d'Asperger, aujourd'hui on va plus dire TSA.
Okay. Ça a changé à partir de quand, ça, ce...
Oula. Je crois que ça a changé. En fait, ça n'a pas changé même au niveau sociétal. Ça n'a pas énormément changé. Il y a par exemple, il y a quelques semaines, je suis allée voir mon médecin qui, pour faire mon dossier MDPH, alors pour les auditeurs qui ne savent pas le dossier MDPH, c'est le dossier avec toutes nos petites informations que l'on remplit pour pouvoir bénéficier de certaines aides. Donc, en remplissant ce dossier MDPH, j'avais besoin du diagnostic de mon médecin qui m'avait du coup posé comme diagnostic syndrome d'Asperger. Alors, il m'avait bien expliqué, alors oui, on utilise cette expression, mais c'est pour le dossier MDPH, faut pas que tu le prennes pour... voilà, il savait très bien qu'on utilisait plus ce terme pour la principale raison que Asperger, en fait, c'est un gouverneur nazi. En fait, celui qui a vraiment théorisé l'autisme, et d'ailleurs on parlait de psychopathologie autistique à l'époque, c'est quelqu'un qui travaillait dans les camps de concentration et qui a fait des expériences sur les enfants atteints d'autisme.
Mmh. Oui, donc effectivement, ce terme-là, j'imagine, ne te plaît pas trop, forcément.
Non, il ne me plaît pas. Il ne me plaît pas pour cette raison, parce que voilà, je n'ai pas envie qu'on m'affilie avec un gouverneur nazi. Mais il ne me plaît pas non plus parce que, avec le temps... au fil des années, on a fini par associer le terme d'Asperger avec l'idée d'un autiste de génie, en fait. Une forme d'autiste, l'autisme du savant, c'est même encore... L'appellation, elle est d'ailleurs restée. Et on range, en fait, une partie des bons autistes, entre guillemets, dans cette charmante petite case, pour donner l'idée qu'il y aurait des autistes, des génies, en gros, qui seraient... des grands créateurs, des grands artistes, des ingénieurs. À contrario, il y aurait les mauvais autistes, les handicapés qui se tâtent la tête contre les murs. Et nous, on n'aime pas cette notion-là. On n'aime pas l'idée d'une hiérarchisation et on n'aime pas cette espèce de pression qu'on nous met comme quoi il faudrait être des génies. En fait,
être dans du bon côté, en fait,
voilà.
Le bon autiste.
Ouais. Voilà, on n'aime pas l'idée du bon et du mauvais autiste. Donc voilà, je n'aime pas du tout ce terme et je préfère qu'on dise TSA.
Ok. Tu as étudié la littérature, donc toi tu as vraiment cette sensibilité des mots. Est-ce qu'il y a un auteur ou un livre qui t'a peut-être particulièrement marqué, qui t'a donné envie de faire ces études-là ?
J'ai toujours eu envie de faire de la littérature parce que la littérature, quelque part, ça m'avait sauvé la vie en fait. Quand j'ai eu du mal par exemple à effectuer des tâches simples ou quand j'avais du mal à manger ou du mal à dormir, les livres, ils étaient là pour me rassurer, tout simplement parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui le savent, mais dans l'autisme, il y a la notion d'habitude qui est très très importante. Donc le fait de relire toujours le même livre, ça permet de rassurer la personne autiste. Ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être un jeu vidéo, ça peut être un jeu vidéo, ça peut être n'importe quoi. Donc très tôt, en fait, j'ai commencé à lire des livres. Et ça m'a beaucoup apaisée pour effectuer donc ces tâches quotidiennes comme manger ou dormir. Avoir ma petite histoire le soir, ça me permettait de pallier à certains troubles du sommeil que j'avais déjà à l'époque. Bon, parenthèse refermée, j'ai toujours aimé la littérature, donc j'ai commencé à faire des études littéraires, mais il y a un auteur, donc une autrice qui m'a particulièrement accrochée quand j'étais au lycée, c'est Amélie Nothomb, en fait. S'il y a des personnes de mon entourage qui m'écoutent, je pense qu'ils le savent très bien que c'est une autrice que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est peut-être l'une des choses qu'on sait le mieux sur moi, c'est que j'adore Amélie Nothomb, j'en parle tout le temps. Je la vois régulièrement en dédicace, j'ai plusieurs lettres d'elle, et je connais beaucoup, beaucoup de choses sur sa vie. Voilà, c'est ce qu'on appelle un centre d'intérêt spécifique. Et alors, pour faire le lien avec l'autisme, moi, je ne sais pas exactement s'il y a un lien dans les livres d'Amélie Nothomb, mais je me souviens que ce dont elle parlait, cette espèce de singularité, de spécificité, de cette vision en fait de la vie, des couleurs, des personnages, de la société, c'était quelque chose qui m'a marqué, en tout cas qui m'a dans lequel je me retrouvais exactement en fait. Mais bien loin de moi l'idée de dire qu'Amélie Nothomb est autiste ou que ses livres seraient une métaphore de l'autisme ou une symbolique de l'autisme, non. Je pense que j'apprécie des tas d'œuvres sans qu'il y ait forcément de lien avec ça.
Aujourd'hui, donc, tu nous as dit vouloir te lancer éventuellement dans le journalisme. Tu écris en même temps plutôt des romans, des poésies. Tu écris diverses choses, je crois.
Alors, ouais, c'est des chansons que j'écris le week-end. Et par contre, en semaine, j'écris des nouvelles, des textes narratifs et effectivement des romans. J'ai commencé quand j'avais 13 ans. Et ça, c'est un de mes centres d'intérêt spécifiques. C'est-à-dire un centre d'intérêt sur lequel je vais revenir très régulièrement, qui va me rassurer en fait. L'écriture, j'écris très très régulièrement, j'écris tous les jours, et si je ne le fais pas, il y a moyen que je fasse la gueule toute la journée. Donc ça aussi c'est assez particulier, mais c'est ce qui me permet aujourd'hui, et c'est ce qui m'a permis aussi de tenir et de m'adapter en fait, tout simplement. De me sociabiliser, de rencontrer d'autres personnes qui partagent la même passion que moi. C'est un exutoire.
Aujourd'hui, où est-ce que tu en es dans ta vie, justement, dans tous ces projets que tu lances ? Est-ce que tu as envie d'en dire quelques mots ? Parce qu'il y a des périodes de transition, je trouve que c'est aussi important d'en parler.
Je crois que depuis que j'ai commencé à écrire, donc depuis le moment où je me suis vraiment trouvée cette passion-là, il n'y a pas eu un seul jour où je me suis sentie parfaitement en sécurité, parfaitement au clair avec ce que je voulais faire. Et pourtant, paradoxalement, j'ai toujours eu des certitudes sur ce que... sur ce que je voulais faire en fait dans un avenir proche. Par exemple, quand j'étais au collège, je savais que j'allais rentrer au lycée, et au lycée je savais que je voulais faire une prépa littéraire. En prépa littéraire, je savais que j'allais faire une fac. Et à la fac, une fois avoir terminé ma licence de lettres modernes, je savais que je voulais faire un master en littérature générale et comparée. Donc, j'ai toujours eu ce besoin de savoir ce que j'allais faire, et paradoxalement, je ne voyais pas trop où je voulais en venir, en fait. C'est un peu comme si je voulais trouver une solution à court terme, mais qu'à long terme, c'était plus compliqué. Alors, dans les projets actuels, je voudrais vraiment être journaliste. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, beaucoup faire dans ma vie, écrire des articles, rencontrer des personnes.
Tu as reçu le diagnostic d'autisme assez tard, au lycée, je crois.
C'est assez particulier, en fait, parce que je suis d'abord allée voir une psychiatre quand j'avais 14 ans. Donc, j'étais à cette époque-là, j'étais partie à New York avec ma famille. Et pendant 15 jours, j'avais arrêté de manger. Et j'ai perdu peut-être 5-6 kilos, ce qui est beaucoup. Surtout que j'étais pas bien épaisse déjà à ce moment-là. Donc quand j'étais rentrée au collège, quand j'ai fait la rentrée, mes camarades ont vu que j'avais
fondu.
J'avais fondu. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de voir un psychologue. Donc le fait qu'il y ait des psychologues au collège, vous gardez ça, hein, l'éducation nationale, parce que c'est extrêmement important. Donc je suis allée voir l'infirmière de mon collège qui m'a réorientée vers la psychologue, avec qui j'ai pu avoir un premier diagnostic, mais pas d'autisme en fait, un diagnostic d'HPI. Alors il est très controversé, ce diagnostic, et ça je peux comprendre pourquoi. C'est avoir un diagnostic on te diagnostique intelligent, comme si on pouvait le mesurer. Je comprends que ce soit bizarre. Maintenant, j'étais contente de l'avoir parce que ça m'a permis, parce que comment ça se présente, il y a des diagrammes avec, là Adèle, t'es à fond dans ce domaine-là, donc pour moi c'était plutôt l'association d'idées et le vocabulaire. Mais par contre, dans la perception spatiale, j'étais vraiment en dessous de la moyenne, donc ça m'a permis de comprendre ça et de poser toutes les questions que je voulais, et aussi d'une part qu'on accepte, et moi d'accepter que je sois un petit peu différente, même si j'aime pas ce terme, tout le monde est un peu différent, mais en tout cas ça m'a permis d'accepter mes propres faiblesses, mes failles, en me disant il y a quelque chose derrière. Sauf que ça ne me suffisait pas d'avoir ce diagnostic-là. J'avais encore beaucoup de questionnements autour de mes obsessions. Ça n'expliquait pas pourquoi j'avais autant pété les plombs en partant en voyage, quand même.
Oui, parce que toi, finalement, tu te sentais mal, mais tu ne savais pas non plus expliquer ce qui se passait du tout.
Non, voilà, c'est ça. Et puis, quand on est adolescent, il y a une quête identitaire à laquelle tout le monde... que tout le monde fait, en fait. On a tous notre petite recherche d'identité. Donc, il me fallait une réponse pour comprendre pourquoi est-ce que j'avais du mal à sociabiliser. Je ne savais pas pourquoi j'avais des phobies, en fait. C'était carrément des phobies pour les papillons, pour les produits ménagers, peur que ma peau soit trouée par des produits ménagers. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais ça. Et en fait, j'avais très peur de ce qui se passait dans ma tête. J'avais l'impression que je perdais un peu le contrôle. Donc, j'avais ces obsessions, des idées en fait que je pouvais pas contrôler. Et je me suis dit, j'avais décidé de prendre les choses en main et de me dire il faut que je sache en fait ce qui se passe, parce que sinon je pourrais pas avancer en fait, tout simplement. Et j'avais peur en fait que ça se termine très mal. Donc, je suis allée voir mon médecin et j'ai un très bon médecin. Il m'a réorientée vers une pédopsychiatre. Donc, une psychiatre pour enfants, en fait. C'est ça, le terme de pédopsychiatre, c'est une psychiatre pour enfants. Et ensuite, mes parents ont été mis au courant du diagnostic. Ont fait le choix de ne pas m'en parler tout de suite. pour plein de raisons, parce qu'ils avaient peur que je décide en fait de ne plus essayer de progresser, que ce diagnostic me bloque. Voilà. Et c'est seulement quelques années plus tard que finalement on a pu mettre ce sujet sur la table. Donc, dans les faits, je sais que je suis autiste depuis que j'ai 17 ans. Et je voulais vraiment parler de quelque chose d'hyper important, c'est que ça ne suffit pas d'avoir le diagnostic. Encore faut-il l'accepter, en fait, tout simplement. Lorsqu'on reçoit un diagnostic d'autisme et qu'on te dit tu es handicapé, parce que clairement c'est ça, c'est du handicap, ben, il faut un petit temps d'adaptation, en fait, et de compréhension de ce dont il s'agit, surtout quand il s'agit d'un handicap invisible et psychologique. Donc, passer du statut de neurotypique, parce que j'avais ce statut-là à l'époque, et à neuroatypique, donc avec des changements, qu'on te dise tu as un trouble, mais on ne sait pas d'où ça vient, bah, c'était particulier, en fait. Donc j'ai mis plusieurs années, et je pense que je ne l'ai accepté que très, très récemment. N'essayez pas de paraître neurotypique. À aucun moment, on ne doit s'adapter, changer fondamentalement ce qu'on est pour ressembler à une personne qu'on n'est pas. Ce n'est pas possible et le faire, c'est extrêmement dangereux. J'insiste vraiment sur ça parce que je l'ai fait. Et je l'ai fait parce que aussi je pouvais le faire en tant que femme, tout simplement. Et je pense que mes confrères masculins ont plus de mal parce qu'ils ont peut-être pas eu l'occasion de développer des codes sociaux comme nous les femmes à qui on demande beaucoup plus ce genre de choses quand on est enfant. Donc moi j'ai pu le faire, je suis partie en prépa, j'ai essayé de me faire des amis, donc de m'adapter à eux, à leurs besoins, de pas faire de vagues entre guillemets quand j'étais en classe. Et le résultat, c'est qu'il y a eu la pandémie en 2020. C'est que je n'ai pas pris le temps de savoir quelles aides m'étaient proposées. Je me suis dit que j'en avais pas besoin parce que de toute façon, moi je suis pas comme les autres autistes, mais bon sang de bonsoir, qu'est-ce que je raconte ? Et que je pouvais parfaitement m'adapter et me camoufler. On parle de camouflage. Ça s'est pas bien terminé et en gros, j'ai fait un énorme burn-out en prépa. Et c'est ce burn-out qui m'a permis de réaliser qu'il fallait que je change drastiquement mes habitudes.
Et comment est-ce que tu décrirais l'autisme comme toi tu le définis ou comme toi tu le vis? Quelle définition t'aurais envie de donner ou quel mot t'aurais envie de mettre dessus pour expliquer justement à quelqu'un qui connaîtrait pas?
Autisme, c'est un très très bon mot, ça vient du grec auto qui veut dire être centré sur soi. Et vous avez l'image de la petite balle qui pour une personne neurotypique va être lancée sur quelqu'un, qui va la rattraper, qui va la lancer à nouveau. Et ben chez la personne autiste, il y a une espèce de grosse bulle autour d'elle, elle lance la balle et boum, elle lui revient dans la figure. Donc voilà, ça c'est l'autisme en fait. C'est des difficultés sociales très fortes, ce que j'aime appeler une cécité sociale, donc... un sens social que normalement nous avons à la naissance et qui n'est pas présent chez la personne autiste. Donc ça veut dire ne pas très bien comprendre les émotions sur le visage d'un individu, ou alors ça veut dire ne pas les exprimer, ne pas réussir à pleurer, à être en colère ou à avoir peur. Tout un apprentissage qui se joue en fait là-dessus.
Mais ces émotions, tu les ressens, c'est juste dans l'expression de ces émotions que c'est plus compliqué.
Ouais. Exactement. En fait, la personne autiste, elle peut exprimer ses émotions de manières qui sont complètement différentes, par des cris, par de... Voilà, c'est là qu'on va rentrer dans les sujets un peu touchy, mais effectivement de l'automutilation ou de la violence. C'est vrai que ça peut arriver, pas pour tous les autistes, et j'insiste vraiment là-dessus, mais ça peut être un moyen d'expression d'émotions quand on est privé, entre guillemets, de ces moyens-là. Tout à fait. Ça va être également, donc là je parle de l'expression d'émotion, mais ça va être l'apprentissage des normes sociales comme la politesse qui va être très compliqué. Tout simplement parce que il n'y a pas chez la personne autiste le recopiage social qui pourrait y avoir chez une personne neurotypique en fait. Donc ça c'est un gros point, c'est la difficulté sociale je pense. Ça va être aussi une hypersensibilité, donc ça c'est difficile à vivre. Franchement, autant, là les difficultés sociales aussi c'est compliqué à vivre, mais l'hypersensibilité, en fait c'est tout le temps. C'est par exemple, s'il y a trop de lumière, trop de flash, par exemple lors d'un concert, si l'artiste il s'amuse à balancer des projecteurs dans tous les sens parce que c'est trop cool, oui. On est encore plus sensible à ça et ça va être épuisant. Moi, mon hypersensibilité, ça va être une hypersensibilité au son. Donc, je vais entendre des choses, je vais avoir mal aux oreilles plus facilement, je vais me boucher les oreilles plus facilement. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai perdu mes bouchons d'oreilles, et crois-moi Margot, c'est chiant.
Justement, j'allais dire, finalement, tu avais tout le temps tes bouchons d'oreilles, si jamais, en fait, pour parer à ce genre de situation.
Oui, en fait, j'appelle ça mes oreillères, parce que on a nos paupières. Si on ne veut pas goûter à quelque chose, on ferme la bouche. Mais par contre, si on veut fermer nos oreilles, bah démerde-toi. Va acheter des protections auditives et tu te tais. Voilà. Donc ça, c'est compliqué parce qu'il faut y penser, il faut les laver en permanence parce que on a peur d'attraper des bactéries parce qu'on est autiste. C'est tout un tas de petites choses. Donc là, je parlais de l'hypersensibilité au son, l'hypersensibilité visuelle avec les oreilles. Je pourrais aussi parler de l'hypersensibilité au toucher et le fait que, par exemple, faire la bise, c'est très compliqué pour une personne qui est vraiment sensible à ça. Il y a aussi des sens auxquels on pense un peu moins. Par exemple, la proprioception. Il y a des personnes autistes qui sont capables de sentir le sang battre dans leurs veines. La proprioception, pardon, je vais expliquer. C'est peut-être un peu plus important de l'expliquer avant de savoir comment ça se traduit chez les personnes autistes. C'est le fait de sentir son corps dans l'espace, en fait. Par exemple, de pouvoir, je sens que ma main, elle touche le verre d'eau, je sens je sais où se trouvent mes membres. Chez une personne autiste, ça peut être de l'hyper proprioception, donc sentir le sang qui circule dans sa... ça peut aller très loin. Personnellement, je sens beaucoup moins mon corps. Je peux me cogner dans des trucs et tout. Oui, parce que je parlais d'hypersensibilité, mais il y a aussi une hyposensibilité chez certaines personnes autistes. En fait, pour pallier à ces difficultés-là, les personnes autistes vont avoir des habitudes particulières. Donc, par exemple, des stéréotypies, elles vont claquer dans leurs doigts ou alors taper sur la table ou avoir des petits gestes comme ça qui ont l'air de rien. Personnellement, j'ai comme stéréotypie d'avoir toujours besoin de sortir dans mon jardin, de faire le tour. Souvent, je fais le tour de ma pièce comme ça pendant 30 minutes avec de la musique dans les oreilles pour m'apaiser. Ça va être aussi des centres d'intérêt spécifiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut cultiver cette équité, cette acceptation des besoins de chacun, en fait. Ça va être aménagé, alors c'est bête, mais vous pouvez aussi le faire à votre échelle, aménager des petites des chambres pendant les soirées pour que les personnes qui ont un trop-plein puissent s'isoler un moment sans qu'elles aient à le dire. C'est extrêmement important. Mais dans les faits, je pense que la chose la plus importante à faire, c'est d'apprendre à communiquer, en fait, à écouter les besoins de chacun, ça concerne pas seulement l'autisme. Et d'ailleurs, pour mes confrères et consœurs, c'est pas à la personne en face de nous de s'adapter complètement. Nous, on voudrait pas ça pour nous, alors on peut pas demander à la personne en face de le faire. Et nous, d'agir comme on veut, il faut qu'on apprenne à s'adapter un petit peu, un minimum. Mais effectivement, la personne doit s'adapter à nous. C'est le principe d'une communication saine, en fait. C'est un effort mutuel pour se comprendre, pour se connaître. Ça, c'est pour moi, c'est le point primordial. Une fois qu'on a une bonne communication, une fois qu'on sait bien faire part de nos besoins, eh ben, c'est déjà la clé d'une meilleure société, en fait.
On parle des contraintes, des difficultés, mais est-ce que dans ce que tu vis au quotidien, est-ce que tu vois aussi des choses que tu considères comme des forces, comme des atouts particuliers dans ta vie ou pour tes projets ?
C'est compliqué de répondre à cette question. L'autisme, c'est pas un défaut, c'est-à-dire que c'est pas que un handicap. C'est vrai ce que tu dis, Margot, c'est qu'il y a aussi des forces. Maintenant, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, l'autiste de génie, il existe quasiment pas. Il y en a peut-être qui sont là, mais en tout cas, il faut se détacher de l'idée qu'être autiste c'est cool. Donc, quelle force ça peut donner ? Eh ben, je dirais que en tant qu'autiste, on amène une nouvelle vision du monde déjà. On a une vision qui est très particulière. Donc, je recommande aux personnes autistes de se mettre à l'art parce qu'en fait, ce qu'on a à transmettre, c'est fou, c'est super, c'est quelque chose qui nous permet de casser un petit peu les codes, de remettre en question des normes sociales qui peuvent paraître. Enfin, je veux dire, par exemple, il y a une norme sociale qu'on m'a appris il n'y a pas longtemps, c'est lorsqu'on va à une soirée, il y a le quart d'heure de politesse. Donc on te donne une heure, mais il faut que tu arrives un quart d'heure en retard. Bah, dans ce cas-là, ne me donnez pas cette heure-là, en fait. Je ne sais pas, mais... voilà, c'est... voilà, dans ce cas-là, autant me donner la bonne heure. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais est-ce qu'on ne pourrait pas cultiver des façons de se saluer plus douces, moins proche, moins voilà, essayer de, enfin je veux dire faire la bise au-delà du fait que bah, j'aime pas ça, mais bon, dire j'aime pas ça c'est peut-être pas suffisant, mais ça transmet des bactéries, des germes, et puis même ça rend, je pense qu'il y a des personnes que ça rend mal à l'aise, donc
connaissent pas bien l'autisme, qu'est-ce que tu aimerais là qu'ils retiennent de tout ce qu'on vient de dire, de ton parcours, ta vision, toi, quelles sont les choses principales à dire, attention, vigilance, s'il devait y avoir deux choses, je sais pas, vraiment à garder en tête.
Le plus important, moins que de parler d'autisme, c'est d'être à l'écoute des besoins de la personne, c'est de comprendre que de remettre en question tout ce que, enfin voilà, de se remettre en question en permanence, de remettre en question ce qu'on a appris, et d'être de connaître la personne qu'on a en face de soi, et de pas se faire avoir par notre peur, en fait. C'est valable pour tout le monde. J'ai pas envie que l'autisme devienne un genre de d'handicap à la mode, et que tout le monde ne sache tout, qui prenne le pas sur d'autres handicaps qui sont beaucoup moins connus. En fait, j'ai pas envie de ça. Il y a beaucoup de troubles psychologiques qu'on connaît beaucoup moins, et auxquels il faut être aussi attentif, sinon plus pour certains d'entre eux, que pour l'autisme. Donc le maître mot là-dedans, c'est d'écouter, en fait, d'être dans l'écoute. Et je vous assure que parfois, un silence, parfois juste se taire et écouter la personne, ça vaudra tous les conseils que vous penserez donner, toutes les connaissances que vous pensez avoir.
pour terminer, qu'est-ce que ça signifie pour toi être pleinement soi-même? Est-ce que tu penses aujourd'hui t'approcher de ça dans ton parcours à toi? Finalement, je pense que c'est une quête un peu qu'on a tous, se dire être pleinement nous-mêmes, au maximum en tout cas, et je crois que c'est quelque chose qui est difficile pour tout le monde, toi, dans ta vie à toi. Qu'est-ce que ça t'évoque?
Être pleinement en soi-même, alors voilà, donc en ce qui me concerne, c'est effectivement accepter l'autisme, mais accepter mes goûts particuliers qui peuvent être liés à l'autisme, mais qui font mon identité propre, mon attrait pour la littérature, mon appétence pour l'information, mon goût pour la recherche, ma passion pour l'écriture, pour les animaux, en fait, je pense que pour être soi-même, le plus important, c'est d'aller dans sa chambre, de fermer la porte à clé, d'éteindre les lumières, de se mettre sous sa couette et de réfléchir une bonne fois pour toutes, qu'est-ce que moi j'aime, qu'est-ce que je veux. Et je pense que personne ne pourra dire la réponse à notre place. Que ce soit des psychologues très bien intentionnés qui pourront peut-être nous aider à savoir comment on peut savoir ce qu'on aime, mais des membres de notre famille ou des amis, personne ne pourra dire mieux ce qu'on est que nous-mêmes en fait. Donc le plus important, c'est d'être en recherche perpétuelle de ce qui nous plaît, accepter qu'on change aussi, ça c'est très dur, mais accepter qu'on évolue, que des choses qu'on aimait quand on était plus jeune, voire il y a un an, il y a 3 mois ou il y a 1 semaine, sont des choses que nous n'apprécions plus. Embrasser le changement, je crois que c'est la chose la plus difficile, surtout pour une personne autiste qui n'aime pas le changement, c'est encore plus compliqué. Mais accepter que notre vie est en perpétuel changement dans une société où, quoi qu'on dise, on favorise la routine, je crois que c'est l'un des actes les plus courageux que l'on puisse imaginer aujourd'hui.
Merci Adèle.
Merci à toi Margot.
On va proposer à l'auditeur de l'autre radio une pause musicale. Est-ce qu'il y a un titre que tu aimerais qu'on écoute ensemble?
Eh bien, on peut mettre la symphonie des éclairs de Zao de Sagazan. Je crois que ce sera parfait pour conclure.
Parfait. Merci beaucoup Adèle.
De rien, merci à toi.
Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens. Celle aussi sait dire, nulle raison d'envier le soleil. Je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs. La tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie, la symphonie des éclairs.
C'est le moment de l'agenda culturel de la semaine. On le commence à Sablé-sur-Sarthe avec l'artiste Nuit Incolore que vous avez pu découvrir en interview dans cette émission hier. Une émission d'ailleurs toujours disponible en podcast sur notre site internet l'autreradio.fr. Mais écoutez François du théâtre L'Entracte nous en parler.
Donc à l'entrée, nous recevrons Nuit Incolore le samedi 11 janvier 2025, date importante en musique actuelle de cette saison, puisqu'on accueillera donc Théo qui vient défendre son album qu'il tourne depuis presque 2 ans maintenant, La Loi du Papillon, qu'il a agrémenté depuis novembre d'un second album, La Note Noire, et qui trouve toujours autant de succès auprès de son public jeune. Donc nous, c'est une date à l'entracte qu'on est heureux de supporter parce qu'on sait qu'on va vers un public jeune qu'on n'a pas tout le temps dans nos murs. Une date qui s'annonce bientôt complète, il ne doit rester qu'une centaine de places. On a donc décidé d'accueillir cette tournée, La Loi du Papillon, qui tourne de longue date depuis la sortie de cet album, de ce jeune chanteur suisse qui a trouvé écho dans une nouvelle génération, notamment au moment de la Covid, qui est dans un univers assez mélancolique, mais qui défend avec énergie et qui répond à pas mal de codes de cette génération, on va dire, de jeunes jeunes majeurs ou lycéens. On espère réunir tout le monde pour cette première date de 2025 à la scène Joël Leteul.
Et donc on continue l'agenda culturel au Carré, à Château-Gontier. Et on écoute Maëlle Grenier, son directeur, ainsi que Christine Houdard, programmatrice jeune public, nous parler de ce qui aura lieu le 16 janvier.
Alors Boléro, présenté par la compagnie DK59 Gilles Verriep. Donc Boléro, je pense que pour beaucoup de gens, ça évoque Ravel et cette musique que tout le monde connaît parce que voilà, elle a traversé, enfin on la rencontre partout. Et Gilles Verriep, il a utilisé donc la musique de Ravel, mais vraiment en s'affranchissant du côté œuvre majeure, imposante, un peu un monument intouchable, et lui, il s'amuse beaucoup avec cette partition. Donc il s'est amusé à déplacer certains morceaux, à reconstruire quelque chose autour de cette musique-là. On reconnaît bien évidemment la musique de Ravel, mais lui s'en amuse, et en plus, au plateau, il convoque 2 danseurs seulement. Et donc 2 danseurs qui vont s'amuser avec cette œuvre qui a une force et une dynamique puissante. Et lui en fait une œuvre hyper joyeuse, riante, espiègle. Il s'amuse vraiment aussi de cette musique pour pouvoir s'exprimer, danser, avoir le plaisir et la joie de danser. Et donc, c'est un moment hyper agréable, ça fait du bien. C'est accessible à partir de 5 ans, donc c'est vraiment un moment à partager en famille. Donc voilà, rendez-vous le 16 janvier. Et pour ceux qui veulent poursuivre l'aventure et rencontrer Gilles Verriep, on propose un atelier danse adulte-enfant, donc en binôme, autour de justement de l'univers de Gilles Verriep, et pour prolonger ce plaisir de la danse et expérimenter par le corps cette dimension artistique. Et donc ça, ce sera le lendemain, donc le samedi 18 janvier, de 10h à 11h30.
L'AJT du local, c'est fini pour aujourd'hui. C'était le grand format. Merci à Adèle pour ce moment passé ensemble. Votre soirée commencera à 19h sur nos ondes avec l'émission Dance Hall Social Club. Pour commencer avec une belle nostalgie musicale, on se plongera ensemble dans de sucreries musicales du passé. Alors je vous laisse pas comme ça, je regarde avec vous ce qui nous attend ce week-end sur les ondes de l'autre radio. Samedi à 13h, c'est l'émission Rock Dreams. C'est un rendez-vous de 30 minutes que nous donne Yann pour découvrir chaque semaine un groupe
ou un artiste. Dimanche à 11h, eh bien c'est la première de 2025 de l'équipe Sport Épique. Au programme, sous la houlette de Benoît, des interviews, des quiz, des chroniques, des débats, mais toujours évidemment dans la bonne humeur, et c'est ce qu'on aime retrouver avec cette émission. À 19h, on écoutera l'émission Comment c'est loin, c'est l'émission Nostalgie qui met en lumière le rap de toute époque. Et c'est un moment que l'on passe avec Amazir, Madame Guest, Maëlle Fouché et puis Pablo Bourdoiseau. Et puis le week-end, eh bien, il se termine chaque semaine à 21h avec l'émission Jazz Attitude qui ponctue en beauté nos semaines. Nous, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission de l'AJT du local. D'ici là, c'est le week-end. Alors prenez soin de ce qui vous fait vibrer et trouvez la beauté dans les petites choses. Il n'y a pas que nos gros projets. Enfin, considérons que ces deux jours qui nous séparent nous appartiennent entièrement pour faire le bien.
Oh, c'est déjà la fin. Bah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Mimi, il y a d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.